La personne assise en face de moi est quelqu'un de très solaire. C'est peut-être dû à ses cheveux blonds, longs, sa peau hâlée, ses yeux verts. Elle a un top noir qui, pour moi, fait ressortir sa lumière. Je suis Lauriane Meulière et je reçois Parisatis Pemani, cofondatrice de la marque Syra. Bienvenue dans Émotion de peau, un podcast MyBlend. Je viens de te décrire à l'instant. D'ailleurs, c'était peut-être un petit peu gênant. Comment est-ce que tu as l'habitude de te décrire, toi, quand on te pose la question ?
Je me décris toujours par un axe professionnel, parce que c'est ce qui me rassure. C'est se dévoiler, mais pas trop. C'est en général sur des sujets que je maîtrise. Mais me décrire personnellement, c'est toujours un peu délicat. J'ai toujours un peu peur de cet exercice qu'on doit faire parfois devant le miroir, en se décrivant, en expliquant qui on est. Et moi, je pense que ce qui me décrit le mieux en tant que personne, vraiment, c'est ma double nationalité franco-iranienne.
Donc après, ton métier viendrait donc tout de suite, dans la façon que tu as de te présenter et donc de te percevoir, la France où tu habites et l'Iran dont sont originaires tes parents. Est-ce qu'au-delà de la transmission familiale, cet héritage iranien s'inscrit aussi dans ta peau, notamment par l'intermédiaire peut-être de ton prénom, Parisatis, qui est un prénom peu commun, en tout cas quand on est en France. Quelle est l'histoire de ce prénom ?
Alors déjà, Parisatis, c'est aussi peu commun en Iran, parce que c'était le prénom de la mère de Cyrus, et donc une reine perse très ancienne. Et aujourd'hui, le prénom moderne qu'on donne aux jeunes filles, c'est Parisa. Donc même quand je me présente en tant que Parisatis à des Iraniens, la moitié ne savent pas du tout qui c'est. Et je m'appelle Parisatis et je suis blonde aux yeux verts. Donc il y a une interrogation, on me demande souvent d'où vient mon prénom. Et de là s'ensuit une discussion souvent très agréable, où en fait je parle de l'Iran et je me rends compte que j'ai passé 30 ans de ma vie à défendre un pays qui a malheureusement parfois une mauvaise image. Et parfois aussi une très bonne image, ça dépend souvent des générations et des vécus. J'ai tout le temps la mère d'une de mes meilleures amies qui me dit « Tu sais, Parisatis, moi quand j'étais ado, je demandais à mes parents de m'envoyer en Iran pour faire la fête comme aujourd'hui vous voulez aller à Ibiza. » Et pour moi ça c'est incroyable parce que jamais j'aurais pensé qu'une Française avait cette image-là de l'Iran. Et c'était vrai, elle voulait aller faire la fête en Iran. J'avais entendu aussi que Giscard d'Estaing allait faire du ski à Téhéran, etc. Donc, et c'est toujours des très belles images, en fait, que les gens me renvoient d'avant la Révolution. Donc forcément, même moi, j'étais amenée à penser qu'avant, tout était parfait et tout était incroyable et il faudrait revenir à ça, alors que pas du tout. La réalité est beaucoup plus nuancée. Mais ça a été quelque chose de très important dans toute ma vie, parce qu'en fait, dès que je me présentais, j'étais ramenée à ma double nationalité, et que j'adore, vraiment, mais qui a été, au fil des années, un peu comme des montagnes russes, quand même.
Au-delà de ton prénom, qui est donc Parisatis, comment est-ce que la culture iranienne s'exprime dans ton quotidien ? Puisqu'aujourd'hui, tu habites en France. Comment est-ce que ça ressort dans ton lieu de vie, dans tes tropismes, dans tes envies ?
C'est par plein de choses. J'ai appelé ma fille Izé, qui est même pas un prénom, qui est le nom d'une ville du sud de l'Iran que je trouve très belle, avec une espèce d'oasis dans un canyon. C'est magnifique. Ensuite, donc mon compagnon est aussi à moitié iranien et on parle persan le plus souvent qu'on peut. Et ça passe après par des amis avec qui je perds pas le contact, des conversations, des films, des musiques et encore une fois des rituels culturels comme le Nouvel An, Yalda, etc.
C'est important d'avoir ce fil rouge justement dans ton quotidien. Comment est-ce que tu te sens quand l'Iran est un peu éloigné de toi, ou est-ce que il y a des moments où ça te manque ? Est-ce que tu dis, j'ai l'impression que l'Iran est vraiment donc évidemment marqué dans ta chair puisque tu es franco-iranienne, mais que si tu t'éloignes trop de l'Iran ou de la culture iranienne, j'ai l'impression que tu dépéris.
C'est un peu ça, mais c'est surtout que je me trouverais à moitié vide si je n'en parle pas, j'ai l'impression que je perds une partie de moi. Et ça, c'est difficile parce que j'ai plus mes grands-parents. En fait, ne plus avoir c'est des membres de sa famille qui, en fait, représentaient tout ce qu'il y a de beau en Iran pour soi. En fait, mes grands-parents, donc les deux du côté de mon père qui sont tous les deux iraniens, ont toujours eu un énorme lien avec la France parce qu'en fait, mon grand-père iranien a fait ses études à Maison Alfort en tant que vétérinaire et ma grand-mère était professeure de français à Téhéran. Et en fait, c'est très dur de se rendre compte qu'en fait, on peut très facilement s'éloigner d'un pays quand on n'y vit pas et qu'on n'a plus les personnes qui nous relient à ce pays. Donc mon père est encore là, bien sûr, mais c'est le dernier.
Oui, comme si finalement, ils étaient dépositaires d'une partie de tes racines et que sans eux, la chose devient plus fragile. Je comprends que ce soit pas évident. Pour le coup, j'ai moi-même une partie de mes racines qui sont pas du tout ici. Et en une génération, en fait, si on ne travaille pas et si on n'arrose pas la plante...
C'est pour ça, je persiste à dire à tous mes amis qui me disent « Est-ce que tu vas lui parler persan ? Est-ce que moi, je devrais parler mon autre langue avec mon enfant ?» Je leur dis que c'est la chose la plus précieuse qu'ils peuvent offrir à leurs enfants. Parce qu'en fait, moi, aujourd'hui, si je ne parlais pas persan, je n'aurais pas pu travailler à Dubaï, je n'aurais pas pu y vivre, je n'aurais pas pu... avoir ce lien avec ma famille, avec des amis que je me suis fait là-bas depuis que j'y vais, depuis ma naissance. Et j'aurais pas pu être moi, en fait. Et j'aurais peut-être cherché quelque chose que j'aurais trouvé plus difficilement qu'en parlant la langue, en y allant, en visitant. Aujourd'hui, si je veux aller à Téhéran, c'est très facile pour moi. Discuter avec des commerçants dans la rue, discuter avec des gens. C'est vraiment un peuple qui est la définition même de l'hospitalité.
Tout ce que tu dis fait vraiment écho avec même mon histoire personnelle parce que là, aujourd'hui, avec ta fille, tu as la possibilité, la latitude et puis même la volonté de parler persan, pas juste parce que tu as envie de lui parler persan, mais c'est presque aussi une volonté politique. Moi, je sais qu'à l'époque, quand ma mère a accouché de moi dans le début des années 90, les pédiatres et les médecins disaient aux mères qui parlaient plusieurs langues de ne parler que français à l'enfant. C'était une préconisation, je crois même que c'était marqué dans le carnet de santé. Enfin, tu vois.
Oui, ma mère a eu le même problème aussi.
Voilà. Et si la mère insiste, on dit « mais ça va embrouiller le cerveau de votre enfant, il ne pourra pas s'intégrer, etc. » Donc en fait, t'as un discours très culpabilisant qui fait que si tu n'es pas très solide sur tes appuis, et ma mère était très jeune, bah, en fait, tu dis « je veux ce qui est de mieux pour mon enfant » et si on me dit qu'il ne faut pas lui parler une autre langue, je ne le ferai pas. Et donc aujourd'hui, je ne parle pas la langue maternelle de ma mère. Et effectivement, quand je suis allée au Cameroun en février... Il y a des personnes de ma propre famille avec qui je ne peux pas entrer en conversation.
Je comprends. Moi, ma mère est française, mais elle m'a toujours dit quand je suis tombée amoureuse de ton père, je suis tombée amoureuse de l'Iran. En fait, donc, mes parents ont eu tous les deux le même discours un peu culpabilisant de « il faut lui parler français, deux langues, ça va être compliqué, etc. » Et mon père, parce que c'est celui qui est étranger, entre guillemets, se disait que oui, ça serait bien qu'elle parle persan, mais il avait peur de ne pas s'intégrer, il avait peur que du coup, on veuille penser qu'il ne veut pas s'intégrer parce qu'il parle persan à sa fille, alors que ma mère, qui elle est 100% française, n'avait aucun problème à dire « moi, mes filles, elles parleront persan et ça sera très bien et ça sera comme ça ».
En France, on connaît assez peu le Moyen-Orient. On a de grosses lacunes sur le sujet. Il y a beaucoup d'amalgames entre les peuples arabes, maghrébins, moyen-orientaux, kabyles. Est-ce qu'il t'arrive souvent, quand tu dis que tu es franco-iranienne, qu'on pense que tu es une femme arabe ?
Tout le temps. Très souvent, mais je peux le comprendre parce qu'effectivement, il y a beaucoup de spécificités dans la région du Moyen-Orient. Ne serait-ce que par la religion, les sunnites, les chiites, et ne serait-ce que par les cultures. Au sein même de l'Iran, il y a plusieurs cultures. Et il y a eu tellement, malheureusement, de guerres, de conflits, etc., que les pays ont bougé, sont devenus amis, sont devenus ennemis, etc. Donc, que ce soit culturellement, politiquement, géographiquement, c'est vrai que c'est toujours un peu flou pour les gens. Ils voient le Moyen-Orient comme une grosse pomme, je pense. Mais ça doit être la même chose pour l'Afrique.
En 79, ton père fuit la Révolution. Il est athée. Est-ce que toi, tu es athée aussi?
Je ne sais pas si à 30 ans, j'aurais la même réponse qu'à 40 ou 50. Je dis souvent que je suis déiste. Je crois en un dieu, si on peut l'appeler comme ça, ou une force supérieure, quelque chose d'un peu mystique. Mais je ne lui attribue ni un livre, ni une religion, ni un nom. Il n'y a pas pour moi de Bible, de Torah, de Coran. C'est plutôt quelque chose qui réunit, plutôt que quelque chose qui divise. Et malheureusement, pour moi, en France comme en Iran, la religion a beaucoup divisé et a très peu réuni, malheureusement.
Est-ce que justement le fait que tu sois déiste, ça va avec ta part iranienne?
Je pense oui, parce que l'Iran, c'est un pays particulier où même s'il y a une république islamique avec un guide suprême qui est un mollah, ils ont gardé le nouvel an iranien qui est basé sur une religion monothéiste qui s'appelle le zoroastrisme. Moi, je le décrirais pas forcément comme une religion monothéiste, mais plus comme une philosophie de vie, plus comme le bouddhisme, en fait, avec des mages, des rites, mais aucune obligation. Et ce qui est très beau dans le zoroastrisme, c'est que tout est lié à la faune et la flore. Donc le nouvel an, c'est le 21 mars, le jour du solstice du printemps. Donc tout est lié au soleil. C'est très poétique. Vraiment, c'est ce que j'aime en Iran, c'est cette poésie dans tout, dans la philosophie de vie, dans l'art, dans le cinéma, dans la mode, dans l'architecture. Et la deuxième célébration, par exemple, la plus importante en Iran, c'est Yalda, qui est, elle, le solstice de l'hiver. Donc la nuit la plus longue, avec plein de symboles, végétaux, des grenades, etc. Donc je pense que ce côté mystique me vient vraiment de l'Iran. Et justement, mon seul tatouage, c'est le zoroastre iranien dans mon dos qui symbolise plein de choses très spirituelles. Par exemple, les trois couches d'ailes pour le passé, le présent et le futur. Il y a un anneau qui symbolise les cercles vertueux qui peuvent être aussi vicieux de temps en temps dans la vie. Il y a la main tournée vers le ciel pour dire que, encore une fois, il faut faire attention, il faut connaître son passé, vivre son présent pour construire le futur. En persan, le zoroastre, c'est Faravahar. Et c'est vraiment ce symbole de la vie, en fait. Mais en fait, ce symbole, c'est pour dire à l'époque, c'était pour dire à tous les Iraniens, je suis iranienne. Que vous le vouliez ou non, que ça soit moitié ou non, que je sois blonde aux yeux verts et que, bah, du coup, à moitié. Mais par contre, j'ai le Faravahar tatoué, donc je me tamponne iranienne, tu sais. C'est comme si c'était une validation que je m'étais faite avec moi-même. Parce qu'en fait, c'est la compensation de mon physique pour valider mon côté iranien.
Alors, tu le disais justement, mais tu es blonde, tu as la peau claire. T'es pas du tout l'archétype de la femme iranienne. Quel rapport est-ce que tu entretiens à ta couleur de peau, à tes yeux verts, à tes cheveux blonds? Qu'est-ce que ta peau dit de toi et quelle relation t'as entretenue avec ta peau par rapport à cette identité justement iranienne?
Je suis blonde aux yeux verts, donc j'adore les femmes très brunes. Comme ma petite sœur. Ma petite sœur et mes deux petites sœurs sont très brunes et c'est vrai que plus elles sont brunes, plus je les trouve magnifiques. Quand j'étais petite, je voulais être Jasmine tout le temps dans les princesses de Disney et malheureusement, j'avais jamais le rôle, bizarrement. J'ai une peau très iranienne. J'ai la peau de ma grand-mère qui commence à faire des taches, qui prend très facilement le soleil, un peu épaisse. Enfin, vraiment, j'ai pas du tout une peau, entre guillemets, de française. Et pour moi, ça a toujours été justement très agréable parce que j'ai rarement eu de coups de soleil. J'avais vraiment l'impression de pouvoir être au soleil à Téhéran, jouer toute l'après-midi au soleil sans aucun problème. Par rapport à mon physique, je dirais que ça a toujours été un peu compliqué jusqu'à un certain moment. Parce qu'en fait, je ne comprenais pas pourquoi les gens ne me considéraient pas comme une Iranienne, que ce soit les Français ou que ce soit les Iraniens. Parce qu'en fait, Je devais constamment prouver aux Iraniens que, malgré le fait que je ne sois que moitié iranienne, je me sentais très iranienne. Et aux Français, je voulais leur montrer que je n'étais pas que française et que blonde aux yeux verts. Et je parle souvent d'une histoire que le frère de ma grand-mère me raconte toujours, qui me dit « Parizatis, mais je sais pas, tu es française ou tu es iranienne, toi ? Tu préfères quoi ? Tu préfères la France ou l'Iran ?» Il m'embêtait toujours, c'était vraiment comme un deuxième grand-père. Et un jour, je lui ai montré, je lui ai dit bah, « Tu vois, il y a mon cœur et la moitié là, c'est l'Iran et la moitié là, c'est la France. » Et je lui ai dit ça, je devais avoir 5-6 ans, donc j'étais toute petite. Et c'est vraiment ça, de cette manière que je me définirais aujourd'hui, en fait. Et mon physique fait que... alors, c'est une chance en France, parce que j'ai pas fait face au racisme physique. Mais en même temps, c'était quelque chose que je devais un peu combattre. C'était le premier préjugé physique, en fait. Et devoir un peu se battre pour une légitimité en tant que personne... Et une légitimité à pouvoir parler de l'Iran en tant que franco-iranienne, c'était quand même absurde. Parce qu'en fait, si vous prenez une franco-iranienne qui est brune, aux yeux marrons, à côté de moi, comme mes sœurs, en fait, on va tout de suite leur donner beaucoup plus de crédibilité que moi. Et en fait, c'est ça, c'est ce combat à la fois défendre mon pays et ma crédibilité en tant que franco-iranienne qui parfois est épuisant.
Je vois très bien ce que tu veux dire, parce qu'en fait, le métissage, il peut être visible ou invisible. Bah, typiquement, dans mon cas, visible, dans le tien, invisible. J'ai voilà, une peau qui n'est pas totalement blanche, des cheveux noirs et bouclés. Dans une assemblée de personnes qui vont parler du Cameroun et qui sont noires ou métissées de couleur plus foncée, je vais avoir tendance à me taire en me disant « Bon, je n'ai pas expérimenté les mêmes choses, je ne dois pas savoir les mêmes choses, etc. » Alors que finalement, nos vécus sont légitimes. Est-ce que le fait d'avoir la peau claire, peut-être en grandissant, à l'adolescence, etc., a été, on va dire, un fardeau, même si aujourd'hui, peut-être, tu as fait la paix avec, mais est-ce que ça a été un fardeau assez important pour que tu te dises « je vais me foncer la peau, je vais essayer de me mettre plus au soleil pour justement un peu équilibrer ?» Non, mais enfin, oui, je suis iranienne.
Je pense que c'est générationnel, parce que moi, de toutes mes copines au lycée, donc quand on avait 16-17 ans, c'était à base de monoï et de graisse à traire et de qui serait la plus foncée, mais que ce soit mes copines qui étaient déjà foncées à la base ou les plus claires. Et c'était la grande tendance du monoï à mélanger avec des jus de carottes. Enfin, il y avait des choses pas possibles qui étaient tout sauf bons pour notre peau. Donc, j'ai malheureusement fait partie de ces filles qui mettaient du monoï. Et je dois dire que j'avais toujours cette fierté à dire que je bronzais très facilement et que ma peau était habituée au soleil et que j'avais pas une peau de blonde ou de blanche. Mais en vieillissant, je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait juste en prendre soin.
Aujourd'hui, comment est-ce que tu prends soin de ta peau ?
Je bois très rarement de l'eau et depuis un certain nombre d'années, là, je me force parce qu'en fait, ça lui fait du bien et l'hydratation, c'est vraiment très important. Je l'hydrate beaucoup, ce que je n'ai pas fait pendant très longtemps, parce que j'avais une peau plutôt grasse, donc j'avais tendance à éviter tout ce qui était encore réhydratation. J'avais l'impression que parce que j'avais la peau grasse pendant très longtemps, je ne connaissais pas ma peau. Et j'avais l'impression que parce que j'avais la peau grasse, il ne fallait pas que je l'hydrate de trop, ou bref, faire un peu attention à l'excès de sébum, etc. Et en fait, avec le temps, j'ai juste appris à lire les ingrédients sur les produits et à savoir ce qu'il me faut. Et par exemple, je n'utilise très rarement de la vitamine C parce que je sais que justement, c'est pas fait pour moi. Mais au contraire, toutes les crèmes qui ont un peu de zinc, etc., c'est parfait, c'est ce qu'il me faut. Et donc voilà, j'apprends juste à choisir ma crème de jour. Ou mes crèmes de jour, parce que j'adore changer. Et je pense vraiment que changer de que ce soit des shampoings ou que ce soit des crèmes de jour, c'est très important. Parce que moi, personnellement, je sais que ma peau s'habitue très vite aux produits. Et faire des roulements comme ça, de produits différents, c'est quelque chose qui pour moi, est super intéressant au niveau du résultat de ma peau.
Et tu la protèges un peu plus du soleil ?
Oui, je mets de la 50 tout le temps, surtout depuis que je vis à Dubaï. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait directement en arrivant à Dubaï, parce qu'en fait, il y a une telle météo qu'on ne peut pas ne pas se protéger. Et dès que je suis arrivée à Dubaï, j'ai mis de la 50 tout le temps. Et en rentrant en France, là, je continue à mettre de la 50, même quand il fait pas beau, même quand il n'y a pas de soleil, etc.
Tu as vécu dans le monde entier, Dubaï, Paris, Marseille, Téhéran. Qu'est-ce qui t'a fait autant voyager ?
Ce qui m'a fait voyager, c'est sûr, c'est l'Iran. Je voulais absolument créer un pont entre l'Iran et la France dans mon parcours professionnel. En janvier 2016, après avoir fini l'IFM, je suis allée à Téhéran pendant 6 mois et j'ai voulu faire un pont entre l'Iran et la France et créer comme une summer school sur la production textile en Iran, avec une professeure de l'IFM qui est venue à Téhéran pour donner des cours. C'était pour moi une manière de mettre en avant ma passion pour le textile et la mode et ma passion pour mes deux pays. Alors au début, j'étais très excitée parce que j'avais l'impression de connaître les rues, les gens, le peuple, les coutumes. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était complètement différent vraiment d'y vivre. C'était assez spécial.
Tu décides d'aller à Dubaï à la suite de ces 6 mois. Qu'est-ce qui te conduit là-bas ? Est-ce que tu peux nous parler un peu du projet qui t'amène dans cette ville et de ce qui s'y passe ?
Quand j'étais à Téhéran, je me suis rendu compte que tout ce qui se passait autour de la mode et de la beauté était en fait dirigé par Dubaï, qui est le hub pour tout le Moyen-Orient, de grosses sociétés comme L'Oréal, LVMH, etc. J'ai décidé d'intégrer une agence de communication qui s'appelle Icon pour travailler sur le Moyen-Orient au sein de l'équipe studio et développer les marchés là-bas avec la directrice générale et la directrice clientèle.
Et là-bas, il y a un déclic ?
Il y a un déclic dans les malls de Dubaï où je surconsommais de la fast fashion à gogo, du Zara et du H&M à tour de bras. Et en fait, j'avais commencé à suivre Marie DeWatt de Maison Cléo. J'avais acheté ma première pièce Maison Cléo qui était un kimono en coton blanc magnifique à Dubaï. Et en fait, quand j'ai reçu cette pièce, je me suis vraiment dit « Waouh, c'est spécial ». Du jour au lendemain, je me suis dit, c'est fini, plus de fast fashion. Aidée par tout ce que Marie partageait sur les dérives, que ce soit environnementaux ou de personnes, éthiques, etc. À l'époque, en plus, il y avait eu le Rana Plaza avec H&M, etc. Donc là, du jour au lendemain, vraiment, je me suis dit, bon, bah, c'est fini, plus de fast fashion. Donc j'ai arrêté, j'ai commencé à aller beaucoup plus en fripe. J'ai commencé à me renseigner sur la provenance de mes vêtements, où ils étaient faits, dans quelles usines, etc. Je faisais toujours attention au made in.
Est-ce que c'est ce qui te pousse à lancer ta marque ? C'est quoi la genèse, justement, de cette marque ?
La genèse de cette marque, c'est que je ne trouvais pas d'essentiel et de basique qui soit fait en made in France pour accompagner toutes ces pièces très mode que j'avais. Donc, par exemple, une jupe noire, une robe noire, une petite veste noire ou une robe beige. Ce sont des basiques, des essentiels, toujours en couleur unie, uniquement en Made in France, entre Marseille et Lyon, et avec des choses quand même très sexy et mode. J'ai envie de proposer des pièces intemporelles qui justement sont là pour accessoriser des pièces très mode, Jacquemus, Chanel, Versace ou Marine Serre, et qui sont là, en fait, pour balancer un look, mais toujours en Made in France. Et ça, je ne le trouvais pas.
Est-ce que tu as travaillé ta gamme de tailles de manière particulière ?
On peut faire toutes les tailles. On a des patrons aujourd'hui qui vont du 34 au 42, mais qui sont extensibles sur demande. C'est que nous, nos mannequins, elles ne font pas toutes du 34 et elles ne font pas 1m70. Et on a une mannequin qu'on a pris là qui faisait un 38 et qui faisait 1m55. On a toutes les tailles. Et justement, notre force, c'est qu'on fait petite, régulière et tall. C'est vrai que c'est un non-sens de créer un produit qui m'irait à moi comme à toi, alors qu'on n'a pas du tout la même taille. Et que du coup, ça ne tomberait pas du tout pareil.
On va parler un petit peu de ton corps. On commence avec un compliment. Tu es une très belle femme. Est-ce qu'on te le dit souvent ? Est-ce que quand on te le dit, tu y crois ? Et comment est-ce que tu te sens quand, bah, moi, par exemple, je te dis que je te trouve belle?
C'est souvent des femmes qui me le disent. Et j'ai mes amis qui rigolent tout le temps parce que je me fais souvent draguer par des femmes. J'ai ce côté très sororité qui fait que j'adore que les femmes se complimentent entre elles. J'adore qu'il y ait ce regard assez doux et sympathique entre femmes. Ce type de compliment, ça me fait vraiment du bien. Surtout parce que quand j'étais petite, j'avais un gros surpoids et que ça n'a pas été facile, que j'ai dû faire face aux critiques, aux moqueries atroces que peuvent avoir les enfants entre eux à cet âge-là. Moi, j'étais une enfant qui se trouvait très, très belle. Et ça, je le sais parce que la chose qui m'a le plus marquée des choses qui se sont passées dans mon enfance, c'est que ma mère m'a rappelé que j'étais allée voir donc, plusieurs nutritionnistes et que ça se passait jamais bien, que je perdais pas ce poids. Et un jour, ma mère est allée voir un nutritionniste brillant qui lui a dit « Mais Madame Pemani, votre enfant se trouve belle, elle ne maigrira jamais tant qu'elle se trouve belle. » Et en fait, il n'y a pas besoin qu'elle maigrisse maintenant. Parce que elle est pas encore. Elle est, oui, certes, elle est en surpoids. L'IMC est trop haut, mais il est pas encore dans une vraie obésité, la maladie. Et j'ai trouvé ça brillant parce qu'en fait, effectivement, enfin, pourquoi maigrir si je suis pas malade? Et donc ma mère a arrêté tous les régimes, tout. J'ai pas maigri. et en fait, je me trouvais belle. Je me trouvais belle, je ne voyais pas le problème, j'aimais manger et en fait, je grossissais uniquement quand j'allais chez mes grands-parents, sauf que j'y allais très souvent. Chez mes grands-parents français, je mangeais beaucoup de frites, de pain, de charcuterie, etc. Et chez mes grands-parents iraniens, je prenais 5-6 kilos avec les repas merveilleux qu'on me cuisinait en Iran. Donc, je n'ai pas du tout maigri. Et est arrivée l'adolescence, enfin même la préadolescence et les moqueries, ce terme qui je pense... me restera à vie, qui était la grosse. J'étais la grosse à l'école. Et je pense que je me verrais toujours un peu comme la grosse. Voilà. J'ai perdu à un âge où, en fait, j'ai continué quand même à grandir. Et du coup, j'ai pas eu de faire de chirurgie. J'ai même pas eu de grande vergeture. Donc, c'est pas inscrit visiblement dans ma peau, mais c'est clairement inscrit sous ma peau.
À l'adolescence, tu commences à être le sujet de moqueries, de critiques extrêmement violentes par rapport à ton poids. Tu es même redéfinie complètement par rapport à ton apparence. Comment est-ce que tu te sentais dans ta peau à ce moment-là, face à ces critiques?
J'essayais de me cacher derrière des vêtements. J'ai commencé à m'habiller avec les vêtements de mon père, de ma mère, de mes grands-parents. Et j'ai commencé à essayer d'attirer l'attention sur tout, sauf mon physique et mon corps. Et donc une tenue, une attitude, une jupe, une robe. Et je pense que c'est vraiment aussi de ça d'où vient mon amour pour la mode. C'est parce que quelque part, ça m'a sauvée, ça m'a permis de me cacher, ça m'a permis d'être quelqu'un de différent. Et je pense même que ça a défini mon sens de la mode jusqu'à encore aujourd'hui. Parce que j'ai toujours eu des styles différents. Et même encore aujourd'hui, je peux m'habiller très boyish et demain, je peux être très glamour et très extra, comme une moyenne orientale. Mais moi, j'adore être, en fait, toutes ces parisatis, entre guillemets, et je pense que ça vient de là.
J'ai vraiment l'impression que c'est les moqueries qui font un peu tout basculer. Quel rapport t'entretiens avec la nourriture à partir de ce moment-là, cette bascule?
Alors, j'arrivais pas à comprendre les moqueries, et une fois que je les ai compris, que j'ai compris que c'était par rapport à la manière dont je me nourrissais, et que du coup, j'ai lié ça à mon alimentation, en fait, j'ai regardé une émission avec, comment il s'appelle le monsieur qui a les grosses lunettes carrées?
Mac Lesky.
Oui, Mac Lesky, pardon. Donc, E égale M6, qui parlait donc de nutrition, et qui avait dit à l'époque... Si vous ne faites pas d'activité physique le soir, sachez que les calories, parce que les calories, c'était quand même le grand mot des années 2000. Et donc, il disait que les calories se multipliaient par deux. Ce qui fait que j'ai complètement arrêté de manger après 17 heures.
C'était un jeûne intermittent avant l'heure.
Voilà. J'ai fait un jeûne intermittent avant l'heure et j'ai perdu 25 kilos en 3 mois. Les premiers kilos ont été très rapides. Et je pense que c'est parce qu'encore une fois, mon corps en avait besoin. 25 kilos, c'est quand même un certain poids. Je pesais le poids de mon père. Pour vous dire, donc c'était pas quelque chose de naturel d'être à ce poids-là pour moi. Ça a été très agréable au début parce que j'étais très concentrée sur justement mon nouveau physique et les amitiés qui changeaient, c'est ce côté social de tu passes de la grosse à une jeune fille normale et ça se passe mieux. Mais en fait, je me suis rendu compte que je voulais perdre de plus en plus. Mon rapport à la nourriture a été très compliqué jusque mes 25 ans, avec des phases d'anorexie ou de... En fait, de sans cesse contrôler ce qu'il y a dans son assiette, sans cesse y penser, sans cesse se dire « Ah tiens, là, j'ai fait un écart, donc ce soir, je vais rien manger. » Enfin, des choses horribles. Et ça a été mieux quand j'ai fait un rééquilibrage alimentaire et quand j'ai, en fait, appris ce que c'était qu'un équilibre et une balance et qu'en fait, je pouvais manger de tout dans ma journée, mais juste à petite dose. Et en fait, je mangeais mes émotions. Je suis quelqu'un qui a toujours mangé ses émotions dès que je stressais. Dès que j'étais triste, il fallait que je me goinfre. Et donc là, j'ai complètement vu la nourriture sous un autre angle et j'ai vu ça comme quelque chose de très positif et sain et bon. Et j'ai choisi mes aliments, j'ai commencé à faire attention aux aliments de saison, etc. Et là, aujourd'hui, c'est un vrai plaisir même d'être dans un rééquilibrage alimentaire parce que, comme je le dis, je mange du pain, du chocolat noir tous les jours.
Quand tu disais que tu mangeais tes émotions, c'était quelles émotions ?
C'était tout. C'était familial, c'était amoureux, c'était amical. Je suis quelqu'un qui a toujours eu besoin des autres. J'ai toujours eu besoin des autres. J'ai une petite théorie là-dessus qui est marrante, c'est que quand on était dans le ventre de ma mère, on était trois. On était des triplés. Et ma mère a perdu les jumeaux. Donc, il y avait dans une poche les jumeaux et moi dans une autre poche. Et ma mère a perdu les jumeaux. Et moi, vu que j'étais dans la poche du haut, j'ai, entre guillemets, survécu. Et donc, ma petite théorie que je me suis faite à moi-même, c'est qu'en fait, j'ai besoin de quelque chose qui est... J'ai besoin des autres. J'ai besoin des autres parce qu'on m'a, entre guillemets, enlevé mes deux acolytes qui étaient là avec moi. Et j'ai besoin des autres pour confirmer ce que je fais, pour plein de choses.
Est-ce que ce rééquilibrage et le fait que tu aies perdu ce poids te fait te sentir à l'aise dans ton corps aujourd'hui ? Je dis ça parce que je sais que tu fais aussi du mannequinat et notamment tu as fait des photos en lingerie, etc. Donc ça nécessite quand même de la confiance en soi et on pourrait se dire que ça nécessite d'être à l'aise dans son corps. Comment est-ce que cette confiance s'exprime à travers les photos ? Ou est-ce que les photos t'ont permis à mieux apprivoiser ce corps ?
Les photos, c'est une thérapie pour moi. Je ne pense pas que la parisatiste de 25 ans imagine un jour que je pourrais faire des photos au poids où je suis actuellement et être à l'aise avec ça. Enfin, être à l'aise. Mon corps a changé et j'apprends à être bienveillante avec lui, tout simplement.
Quel conseil tu pourrais donner de par ton expérience à des femmes ou à des hommes ? Ou à des personnes non-binaires qui ont du mal à accepter leur corps et à accepter leur poids.
Je pense que je leur dirais que s'ils se trouvent beaux et s'ils s'aiment, c'est l'essentiel. Cette petite fille que j'étais, elle était très bien dans ses baskets et elle avait beaucoup plus confiance en elle que moi maintenant. Et mon père ou ma mère, je ne sais plus, m'ont toujours dit « Quand tu as perdu ton poids, tu as perdu la confiance que tu avais avec. » Et ça, c'est tellement vrai. J'avais une confiance, mais d'enfant, en fait. J'ai perdu ma confiance en moi quand j'ai perdu ces kilos. Et malheureusement, pour la retrouver après, c'est un travail titanesque.
Tu es maman d'une petite fille d'un an. Comment est-ce que tu vis cette maternité nouvelle ?
Ça a été très compliqué au début, parce que je culpabilisais quand j'étais au travail de ne pas être avec ma fille et quand j'étais avec ma fille de ne pas être au travail. Et j'ai appris à, encore une fois, être très bienveillante avec moi-même, à accepter mes erreurs, à les avouer. Et en fait, pouvoir avouer ces erreurs et se dire « Ok, je pensais que, mais en fait, pas du tout », c'est en train de devenir une force chez moi et c'est quelque chose que j'adore. J'ai travaillé sur le fait de pouvoir laisser ma fille chez la nounou et d'être concentrée sur mon deuxième bébé qui est ma marque, mais aussi de profiter des moments avec ma fille sans penser à ma carrière et à me dire « Oh là là, je suis avec ma fille, donc ma carrière va être mise de côté ». Non, pas du tout. Tout est une question d'équilibre et ça, c'est pas du tout facile de le trouver, mais j'y travaille.
Toi qui as eu des troubles du comportement alimentaire et du mal aussi à accepter ton corps, comment est-ce que tu as vécu la grossesse ?
J'ai adoré. Au début, j'ai eu les 3 mois de nausées horribles où je dormais du matin au soir, littéralement dans mon lit. J'étais très très mal. D'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi il n'y avait pas de congé maternité au début, parce que j'ai jamais été aussi fatiguée de toute ma vie. Moi, les 3 premiers mois, c'était terrible. Après, j'ai adoré. Mais j'ai vraiment adoré. Honnêtement, j'ai jamais eu un glow aussi fort. Je sais pas pourquoi. J'avais l'impression d'être un soleil. J'avais l'impression d'être un soleil et d'être heureuse.
Est-ce que tu as pris soin de ta peau d'une façon particulière à ce moment-là?
J'ai fait très attention parce que j'avais fait une première fausse couche avant Isé. Et j'avais fait une première fausse couche et je psychotais au début avec Isé en me disant « il faut que je fasse attention, etc. » Je faisais super attention à mon alimentation et surtout je faisais très attention à ce que je me mettais sur la peau et sur les cheveux. Et là, il y a des marques super. Et c'est vraiment pas pour vous flatter, mais c'est Clarins qui fait un package super pour la grossesse, qui m'a aidée durant ma grossesse.
Aujourd'hui, comment est-ce que tu te sens dans ta peau ?
De mieux en mieux et plus apaisée, plus positive, avec plus d'espoir, avec plein de projets, de l'énergie et plein d'amour, je dirais. Voilà.
Je suis Lauriane Melière et j'ai discuté avec Paris Satis Pemani pour Émotion de peau, un podcast My Blend. J'espère que cet épisode vous a plu autant qu'à nous. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner à Émotion de peau et nous laisser des commentaires et des étoiles. Émotion de peau est un podcast de MyBlend produit par Louis Créative, l'agence de contenu audio de Louis Média, en collaboration avec Plume Rédaction. Karen Loyer a fait le montage, la réalisation et le mix de cet épisode sur une musique de Marine Kéméré. On se retrouve très vite!